Pauline Pucciano, Paradict, 29 décembre 2071. 28e meurtre eugéniste du mois dans la région France. Annonce des premières mesures d'Elze Costa, l'enjeu démographique au cœur des débats. Une équipe gouvernementale soudée autour de son leader. Au fil des semaines, la relation d'Abel et de Cyril avait connu diverses phases, dont la dernière en date était une accélération brutale. Après leur première rencontre, où toutes les bases d'une relation ambiguë avaient été jetées, il y avait eu des attentes déçues, des relations de groupe, des absences. Abel savait qu'il ne laissait pas le leader indifférent, mais Cyril se retranchait justement derrière cette position de leader. On n'abordait que des thèmes politiques, on échangeait des regards de loin, on communiquait le plus naturellement du monde par personne interposée. Ce tiers que les deux jeunes gens utilisaient comme média était souvent Oswald. Après s'être fait accepter dans le grand groupe, par la pertinence de ses remarques et son exigence dans la discussion, Abel avait rapidement gravi les échelons, en frayant avec les hackers du groupe d'une part, qui furent impressionnés par sa détermination et sa rapidité, et en cultivant ses relations avec le délicat d'autre part. Aucune de ces deux tâches, d'ailleurs, ne déplaisait à Abel, parce que l'architecture du paradict était une activité à sa mesure, et parce qu'Oswald était un être éminemment intéressant. Son histoire tenait en peu de lignes. Après une enfance surprotégée dans une riche famille autrichienne, il avait fui à Paris et tenté de faire fi de sa tare génétique. Mais celle-ci l'avait rattrapé. Il avait été hospitalisé plusieurs fois, dont une pendant plusieurs mois, et c'est là qu'il avait rencontré Cyril. Oswald était en rééducation après des semaines d'allaitement complet et d'affaiblissement musculaire. Cyril se remettait d'une chute grave. Sa lubie de l'époque était le franchissement urbain, et il était tombé en tentant de franchir l'espace entre deux immeubles. Cette bizarrerie, à une époque où, sans qu'il y ait besoin de couvre-feu, les gens se tairaient chez eux, lui avait valu de la part de la WA plusieurs séances de soutien psychologique en plus des soins médicaux. Cyril avait cependant été si rebelle à toute thérapie visant à le remettre dans le droit chemin de la prudence que le psychothérapeute avait lâché prise au bout de deux séances. L'estampille « pathologie sociale à surveiller » avait été apposée à son dossier, et Cyril était persuadé depuis, à tort selon Oswald, d'être discrètement gardé à l'œil. Entre le délicat presque mourant de son asthme et la tête brûlée qui n'aimait rien tant que se mettre en danger, une amitié singulière était née presque immédiatement. Oswald avait toujours été attiré par son contraire, et c'est aussi pour cela qu'il appréciait Abel aujourd'hui. La force, l'insolence, l'impunité de ses esprits libres dans des corps jeunes exerçaient sur lui un magnétisme invincible. Quant à Cyril, il avait été touché par le courage d'Oswald, qui ne laissait jamais échapper une plainte, ainsi que par l'aura tragique de sa peau transparente, de sa respiration sifflante et de son avenir barré. Oswald représentait dans sa chair mal immunisée le mal du siècle. Il était l'humanité promise à la destruction, l'humanité devenue inadaptée à un monde qui lui était hostile. Il était le raffinement décadent d'une civilisation condamnée. Oswald et Cyril étaient le nœud central de tout le groupe. Ils en avaient pensé la philosophie, le nom, les formes d'action, dans les blancheurs fantomatiques de l'hôpital. Les autres s'étaient greffés sur leur vision moitié héroïque, moitié stoïque de l'existence. La proximité de la mort ne les effrayait pas, et ils tentaient d'en tirer le plus de sens possible pour illuminer leur existence. Cyril, depuis plusieurs années, s'était attelé à l'écriture d'un opuscule de philosophie, intitulé « Le mythe de Damoclès », et en lisait des passages à son ami, ou parfois au groupe. C'était une jeunesse qui avait accepté la fin du monde et qui prétendait profiter de chaque seconde qui lui restait. Aussi, les préoccupations politiques passaient-elles souvent au second plan. On se sentait en lutte contre la WA, Way of Life, contre ce qu'ils appelaient la triste esthétique de la survie. Le seul mot d'ordre était de vivre à 100%, en sur-régime, de faire flamber les cerveaux par une stimulation intense, de faire frissonner les peaux par toutes les émotions possibles. On aimait l'art, le sexe, l'adrénaline, les discussions vives. Il n'y avait pas de place pour les tièdes. Abel se découvrait chaque jour lui-même en côtoyant les Carpe Fatum. Il ne pouvait que constater le contraste entre la jeunesse parfaitement polissée et formatée de la World Administration Academy et ce bouquet explosif de personnalités autodidactes, parfois follement égocentriques, qui composaient le groupuscule. Ce contraste existait évidemment aussi à un niveau individuel, en lui. Il était parfaitement à son aise dans les deux milieux, et ce qu'il apprenait d'un côté lui semblait toujours infiniment utile de l'autre. Quelques mois avaient passé pour lui dans cette navigation en eau trouble. Il restait discret avec Oswald et Cyril sur les circonstances de son passé et prétendait avoir coupé les liens avec sa famille et avec la route suite à un conflit avec son père. Mais, si discret qu'il fût, si faux que fût son personnage, il n'en restait pas moins que les sentiments qu'il développait étaient, eux, bien réels. Lorsqu'Elsie avait annoncé ses premières mesures, Abel était allé directement chez Oswald. D'ordinaire, il eut pris le temps de réfléchir posément aux éléments à divulguer et à ceux qu'il faudrait retenir. Mais aujourd'hui, Abel se sentait si abasourdi par ce qu'il venait d'apprendre qu'il n'avait pas pesé les conséquences. Il avait le sentiment qu'il ne s'agissait plus d'une partie d'échec où tous les coups devaient être étudiés avec leur arborescence de conséquences possibles. Il s'agissait maintenant d'un corps à corps plus âpre, où il faudrait agir à l'instinct. Et l'instinct, à l'heure qu'il était, lui criait que sa sœur était devenue folle, qu'elle avait rompu les digues qui faisaient rempart à un flot dévastateur. L'humain serait englouti dans ce déferlement. Léviathan pouvait affirmer le contraire, Léviathan n'était qu'une machine qui ne comprendrait jamais, malgré toute sa puissance logico-déductive, l'essence ineffable de l'humain. Il valait mieux avoir tort, être irrationnel et être humain, que de faire ce que venait de faire Elsie. Abel ne pouvait s'empêcher de songer qu'un tel manque de discernement ne l'étonnait pas chez sa sœur, bien que l'ampleur planétaire que prenait son erreur le terrifiât. Il la connaissait trop bien pour savoir qu'elle s'entêterait et qu'elle entraînerait suffisamment de gens avec elle pour se maintenir au pouvoir. Il n'avait pas voulu la voir immédiatement et se promit de réfléchir aux objections qu'il lui opposerait. Mais il avait ressenti le besoin impérieux de commenter cet événement énorme avec ses proches. Il avait hésité à appeler Alvar, mais il n'avait pas envie de l'entendre débiter son éternel refrain désabusé sur la politique. Aussi, il se dirigeait maintenant d'un pas pressé chez Oswald, à qui il avait recommandé d'inviter Cyril pour des nouvelles de la plus haute importance. « J'ai un scoop, » dit-il en arrivant. « Un de mes contacts journalistes. Ça sera dans la presse demain. » Oswald n'était pas apprêté pour sortir, et Abel lui trouva un air plus fatigué. La peau très fine autour de ses yeux, où se distinguait tout un réseau de vénules, paraissait froissée. Sans ses dentelles et son or, il paraissait plus petit, plus vieux, plus malade. Cyril, quant à lui, semblait d'une humeur sombre et le gratifia d'un salut silencieux. Ils étaient cependant tous deux suspendus à ses lèvres. Elsie Costa va annoncer ses premières mesures et c'est du lourd. Les deux jeunes gens écoutèrent attentivement le récit que leur faisait Abel. « Cette concession faite au non-être te choque ?» demanda Oswald quand il eut fini. « Limiter les naissances aurait dû être fait depuis longtemps. Quant à la mort assistée, j'ai toujours été pour. » « Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas derrière cette locomotive tout un train de mesures, du genre arrêt des soins à partir d'un certain âge ou pour un certain type de pathologie. »« Du genre on ne va pas s'acharner à sauver un délicat de son asthme, » renchérit Cyril. « Un gouvernement qui incite ses contribuables à mourir me paraît infiniment suspect, » dit Abel. « Est-ce qu'on ne se bat pas depuis des années pour qu'on arrête cette obsession de la survie ?» protesta Oswald. « Tu te trompes de combat, » dit Abel. « Ces mesures ne sont pas issues d'une conception libertaire qui autorise à s'affranchir de la morale bourgeoise. Ces mesures sont issues d'une planification rationnelle de la démographie humaine. C'est cette rationalisation que vous combattez depuis des années. » Oswald réfléchissait aux paroles d'Abel. « L'humain réduit à une quantité à gérer mathématiquement, » dit Cyril. « C'est tout ce que nous détestons. » « De toute façon, » « Supprimer les crédits pour la recherche n'est pas acceptable, » conclut Oswald. « Interdire de vivre passe encore, mais interdire de penser... » Les trois jeunes gens rirent et convinrent que ces premières mesures étaient probablement les plus modérées d'une longue série noire. « Et si on la prenait au mot ?» dit Oswald au bout d'un moment. « Si on la tuait, ça réduirait notre excédent démographique. » Abel, à cet instant précis, prit toute la mesure de son double jeu, et des pensées désordonnées se bousculèrent dans sa tête. Elsie était en train de mener le monde à sa ruine, et les gens qu'il fréquentait la jugeaient digne de mourir, mais elle était sa sœur, et il devait la protéger. « Je ne suis pas favorable à ce genre d'attentat, » dit Cyril après un instant. « Mais tout repose sur elle, » s'entêta Oswald. « Elle est jeune, et belle, et populaire. Si quelqu'un peut faire passer ses mesures, c'est elle. Un autre n'y arriverait pas. Ce monde ne mérite pas que nous devenions des assassins, dit Cyril. Quelque chose se dénoua dans la gorge d'Abel. Et toi, Abel, qu'est-ce que tu en penses ? Demanda Oswald. Je pense que le parti du développement peut en produire des centaines comme elle. Elle n'a rien de particulier. Elle n'est ni particulièrement intelligente, ni particulièrement charismatique. Elle est juste la bonne personne au bon moment. Ce qu'il faudrait faire, mais c'est impossible, c'est saboter son IA. N'empêche, ça serait une action mémorable. Mémorable et stupide, dit Cyril d'un ton un peu menaçant. Oswald le regarda longuement, d'un air de défi. Pourquoi ? Il faut être raisonnable maintenant ? Ce serait du suicide, dit Abel. Et alors ? Cyril et Abel échangèrent un regard inquiet. Oswald semblait très calme et allumait une cigarette. Sa pâleur était toujours plus impressionnante la nuit, lorsqu'elle contrastait avec l'obscurité environnante. Il prenait alors des allures de vampire, exsangue, las d'une existence nocturne qui se traînait sans but. La cigarette le fit tousser, et il dégrafa son col pour respirer plus largement. Comme cela ne suffisait pas, Cyril lui tendit son inhalateur bronchodilatateur. Le petit appareil se fixa sur la bouche et sur le nez, émit une lumière chaude et une mélodie apaisante. Le gaz salvateur pénétra dans les bronches et la respiration d'Oswald s'apaisa progressivement. Abel ne pouvait détacher ses yeux de la poitrine livide, à travers laquelle on devinait par transparence les os et les organes. Il n'avait jamais demandé à Oswald quelle était son espérance de vie, mais il supposait qu'elle n'était plus très longue. « Laissez-moi tous les deux avec vos mines de croque-mort, » fit Oswald après sa quinte de toux. « J'ai besoin de me reposer. » Cyril insista pour rester, mais Oswald le congédia, et les deux jeunes gens se retrouvèrent seuls dans la rue, pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Combien de temps lui reste-t-il ? » demanda Abel. « Quelques semaines, quelques mois, quelques années au plus, » dit Cyril. « C'est comme ça depuis que je l'ai rencontré. » « Son état semble s'aggraver. » « Son état s'aggrave, puis il y a des rémissions et de nouvelles crises. On ne sait pas quand sera la dernière. » Abel ressentait physiquement la présence de Cyril à ses côtés et n'avait pas envie qu'il s'éloigne. La rue était déserte, comme toutes les rues, tous les soirs. L'air était lourd, saturé d'humidité. On entendait le chant des grenouilles. Des insectes voletaient dans les flaques de lumière des réverbères. De loin en loin, une silhouette pressée circulait, tête baissée. « Tu as quelque chose à faire ce soir ?» demanda Abel. « Tout dépend. Qu'est-ce que tu me proposes ?» Le regard oblique de Cyril était plein de double sens, et Abel le soutint. « Emmène-moi quelque part, où tu veux. » Cyril eut un sourire énigmatique. « Tu n'auras pas peur pour ta sécurité ?» Abel eut un sourire caressant. « Si, bien sûr. Alors accroche-toi. Nous allons enfreindre quelques lois, dont celle de la pesanteur. » L'escalade avait été rude. Il avait fallu monter au dernier étage d'un immeuble, passer par les issues de secours, grimper sur les toits et franchir dans l'ombre, parmi les oiseaux qui nichaient là, un parcours improbable. Marcher en équilibre sur des faîtières, sauter d'un immeuble à l'autre, descendre et monter les petites pentes des toitures, sans prendre garde au vertige, au bruit, au frôlement des chouettes effarouchées, aux écrasements visqueux des grenouilles qui pullulaient dans les gouttières. Abel savait qu'il ne devait pas se faire repérer, car on les prendrait à coup sûr pour des terroristes. D'ailleurs, se demanda-t-il, n'étaient pas ceux qu'ils étaient. Ne venait-il pas d'évoquer l'assassinat de la secrétaire générale ? L'effort et la concentration requis pour progresser vidaient la tête d'Abel, tout en lui procurant un plaisir aigu. Cyril avançait devant, souple et félin, rompu à cette pratique. Il l'attendait de loin en loin, et l'observait, goguenard, en train d'essayer de se dépatouiller des difficultés des débutants. Abel sentait ce regard sur lui, et cela le faisait sourire involontairement. Enfin, ils arrivèrent au terme de leur course, en vue de la Seine. Il y avait une terrasse abandonnée, où, quelques décennies auparavant, on avait aménagé une sorte de jardin suspendu. Il ne restait que quelques ruines, des jarres de grès fêlées, la structure d'une tonnelle, du lierre courant sur l'un des murs, une fontaine circulaire où aucune eau ne coulait plus par la gueule du triton central. Cyril alla s'asseoir, les jambes pendantes dans le vide, face à la Seine, et Abel le rejoignit. La Seine, noire et épaisse, paraissait s'écouler avec difficulté. Mon frère aurait probablement quelques dizaines de poésies à réciter devant un lieu pareil. Comment s'appelle-t-il ? Alvar, Alvar Escanza. Il est resté sur la route. Pourquoi n'est-il pas parti avec toi ? Alvar est un nomade dans l'âme, dit pensivement Abel. Il n'a jamais été fait pour la vie des sédentaires, leur politique, leur échiquier social. Et toi ?
Moi ?
Je m'adapte partout. Cyril l'observait avec son acuité habituelle. « Tu grimpes partout, jusqu'au sommet, » corrigea-t-il. Abel, qui souriait déjà, accentua son sourire, faisant apparaître une fossette. « Tu es trop beau pour être vrai, » poursuivit Cyril. Abel détourna le regard, gêné. La scène se chargeait, à mesure que les minutes passaient, d'un érotisme de plus en plus évident, et cela le troublait. Les mots de Cyril, d'autre part, résonnaient de façon ambiguë, comme s'il l'avait percé à jour, et cela le troublait encore plus. Et puis, il y avait cette sensation de fin du monde, cette terrasse abandonnée, la city déserte à ses pieds comme un paysage post-apocalyptique, l'image d'un Oswald aux prises avec la mort, et les premières mesures d'Elsé qui, comme un gong d'une extrême gravité, n'en finissaient pas de résonner et de vibrer dans l'air. « Tu ne me fais pas confiance ?» demanda-t-il brusquement à Cyril d'un air joueur, en le poussant légèrement du plat de la main. Cyril hésita un instant, puis il accepta le jeu et le poussa à son tour. « Pas le moins du monde !» dit-il, en roulant sur lui. Ils commencèrent une lutte amoureuse qui, il le savait pertinemment, devait se finir par une étreinte. Et cet entrelacement de deux corps jeunes, pleins de désirs contradictoires, faisait contraste avec la ville fantôme qui les environnait. Sur l'armature cassée de la tonnelle, un goéland, réveillé par leur chahut, poussa un cri strident et s'envola à tire d'aile.